Bonjour tout le monde, ici Emmanuel Robitaille, toujours en compagnie du retour du Nicaragua. Et Robert, bonjour.
Comment ça va?
Re-bienvenue, très heureuse de te retrouver cette semaine.
Ben, heureux d'être de retour. C'était pas facile là-bas, la condition sociale, les manifestations, la violence est très forte.
Tu nous en avais parlé.
On a quitté le
peu.
Territoire, mais malheureusement, ces gens-là ont des sérieux problèmes.
Oui, en autant que tu sois heureux de nous retrouver, de me retrouver quand même dans les vestiaires ou en sortant des vestiaires,
mais
selon avec, Mademoiselle ou Robitaille.
Avec une pensée pour ces gens-là.
Mais effectivement, je suis. Quand tu m'as téléphoné, on s'est parlé cette semaine et j'ai été sous le choc également. Beaucoup d'empathie, on envoie notre énergie positive également pour que les choses se résoutent de manière pacifiste. Parlant de pacifisme, cette semaine, on est là pour parler de bonnes nouvelles. On est là pour parler de nouvelles différentes également. Tu nous parles toujours de bonheur. J'espère que tu auras gardé une place dans ton cœur pour le bonheur.
Comment dans mon cœur, dans ma vie?
Ouais, je le souhaite. Et on reçoit également cette semaine à l'émission Francesca Tro, artiste peintre. Et également, derrière le livre, Esprit juridique, mythe et symbole du monde juridique. Elle vient nous parler de cette œuvre littéraire qui vient de sortir justement. Ça va être super intéressant. Bienvenue à Aime la vie. Ah! Les cellules souches. On en a parlé quelques fois à travers les semaines, mais cette semaine, j'ai découvert beaucoup d'avancées utilisant les cellules souches qui m'ont, ma foi, surpris, mais également, surprise, je dirais même, dans la mesure où les avancées avancent pour manquer de vocabulaire. C'est ce dont je veux parler cette semaine. Les avancées médicales et les traitements impliquant les cellules souches, en commençant par les cellules souches qui permettraient de réparer nos dents d'elles-mêmes. Les cellules souches sont maintenant utilisées sur le plan dentaire. En fait, ça remplacerait les traitements de canal et les dentiers permettraient de réparer également la dentine, qui est l'organe dentaire et la principale constitution des dents. Effectivement, les dentistes pourraient commencer bientôt à remplacer les plombages par le remplissage des cavités avec des cellules souches qui seraient par la suite durcies à l'aide de rayons ultraviolets, ce qui se fait déjà avec certains matériaux comme les plombages blancs, si je ne me trompe pas. Et c'est le durcissement par rayons UV qui permettrait aux cellules souches d'agir et de guérir le reste de la dent par elle-même, avec le temps, bien sûr. Donc, c'est beaucoup plus intéressant, bien sûr, que de remplir les dents avec des corps étrangers synthétiques qui, d'ailleurs, ne perdurent jamais dans le temps, toujours à refaire, ou sinon, on passe à une intervention encore plus intrusive, comme le traitement de canal. J'ai bien hâte de voir l'essor de cette nouvelle technique ici au Québec, mais je trouvais ça particulièrement intéressant.
Où en est la loi, le sais-tu, sur la récolte des cellules souches?
À ta boy. Ce serait ma réponse. Non, mais ça mériterait une belle recherche quand même, je dirais. On crée également des lentilles fonctionnelles à partir de cellules souches. En plus d'une thérapie contre les cataractes, cette avancée scientifique est assez ambitieuse pour vouloir traiter la cécité. Littéralement, hey, c'est pas peu dire la cécité. Cette nouvelle technologie aurait également un taux beaucoup moindre de complications chirurgicales possibles comparativement aux soins actuellement disponibles, en plus de donner naissance à des lentilles régénérées qui sont beaucoup plus fonctionnelles, donnant lieu à une meilleure vision, soit une vision 20 fois meilleure que les traitements qu'on connaît. C'est ce qu'on a conclu à la suite d'une étude menée sur 12 patients souffrant de cataractes. Et comme les cataractes chez les bébés naissants est également une affectation possible due à des composantes génétiques, par exemple, on a fait le test. Et les 12 bébés de moins de 12 ans ayant reçu ce nouveau traitement ont vu de meilleurs résultats que les 25 bambins, rendus à cet âge-là, on dirait plutôt des bambins, ayant reçu le traitement conventionnel contre les cataractes. Donc, c'est très prometteur. Et on parle également de traitement de la cécité, les cataractes étant la cause numéro un menant à celle-ci, vu un nuage qui se forme et qui bloque le passage de la lumière jusqu'à la rétine, ce qui permet la vision de base. Là. Et c'est 20 millions de personnes par année qui subissent une chirurgie pour remplacer le cristallin, qui est la structure de l'œil qui est affectée par les cataractes, pour se voir implanter une lentille artificielle. Ce qu'on se rend compte, c'est que plusieurs des personnes ayant subi une telle chirurgie ont encore besoin de lunettes ou de verres de contact à la suite de l'intervention pour pouvoir mieux voir, ce qui laisse assez questionnable et partiel les résultats des soins actuels. La nouvelle technologie, utilisant les cellules souches, conserve les cellules fonctionnelles et enlève les cellules dysfonctionnelles par le processus de régénération des cellules souches endogènes. Ça, c'est les cellules qui sont déjà dans l'œil et non pas des cellules souches qu'on aurait multipliées à l'extérieur d'un organisme vivant dans un laboratoire, par exemple. Je trouve ça extrêmement intéressant. Et finalement, des cellules souches pourraient être utilisées pour, attention, roulement de tambour. Robert, si ça te tente de me faire un tambour, non, ça ne tente pas.
Très bon. Là,
mais t'es musicien dans l'âme quand même, tu joues
non,
à la maison.
Pas juste dans l'âme, oui, je fais la flûte traversière.
Des cellules souches pourraient être utilisées pour réparer le cerveau. Pas plus tard qu'en avril dernier, une nouvelle forme de cellules souches a été découverte et pourrait guérir les dommages au cerveau, non seulement dans les cas de traumatisme crânien, mais également dans le cas de maladies dégénératives comme l'Alzheimer. Appelé G2 ou cellules souches tranquilles, ce sont des cellules souches dormantes dans le cerveau qui sont étudiées actuellement et ce sont elles qui ont le plus grand potentiel de régénération de toutes celles étudiées auparavant. Donc, on vise à réveiller ces cellules souches dormantes-là pour les utiliser comme nouveau traitement et on sait que le cerveau est connu pour ne pas pouvoir se régénérer, mais cette vérité, entre guillemets, du monde médical pourrait s'avérer fausse dans un délai assez court. Je trouve ça... On n'arrête pas le progrès. De cellules souches de régénération. Parlons de régénération de notre environnement, qui est un sujet chaud, qui est d'assez d'actualité, en fait, actuellement. Je me demande quel ministère, quelle organisation ne s'en préoccupe pas actuellement. Et c'est la fin de la distribution des bouteilles d'eau dans tous les locaux de la ville de Montréal. C'est ce que nous a communiqué Radio-Canada le 29 mai dernier. Tu étais absent pendant cette période. As-tu eu vent de ça?
Pas du tout.
Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Que les bibliothèques, les arénas, tous les locaux dispensés par la Ville de Montréal elle-même ne distribuera plus de bouteilles d'eau à usage unique. C'est une nouvelle mesure votée à l'unanimité par le conseil municipal. Très bonne nouvelle pour la terre, mais également pour l'économie au Québec, car c'est combien de bouteilles similaires crois-tu qu'on retrouve dans les sites d'enfouissement?
Un maudit paquet.
Essaye
sinon
tout.
Plus. Essaye. Sinon plus.
C'est 700 millions de bouteilles similaires.
Sais-tu ce qu'il y a de pire là-dedans, Emmanuel? C'est que je vois des gens, pas toujours les plus riches, hein, qui sortent des supermarchés avec des caisses d'eau en bouteille. L'eau au Québec, dans les léviers, léviers partout, est potable.
Même dans notre toilette, elle est potable, Robert, je te
absolument,
l'annonce.
Absolument, c'est la même eau.
Dans ma laveuse aussi.
C'est la même eau.
Hey.
Qu'est-ce qui nous prend d'acheter des bouteilles? Je
ça
ne
me,
sais
ça
pas
me dépasse.
Pourquoi, mais... Malade.
Non, mais on apporte une opinion personnelle, peut-être un... Mais vraiment, ça me dépasse.
C'est pas une
cette
opinion personnelle, Emmanuel, c'est une réalité. L'eau est potable. On n'a pas besoin d'acheter de l'eau. Où est-ce que tu penses que l'eau en bouteille, elle provient d'où? La même, des mêmes endroits que, où on prend de l'eau de nos maisons. C'est ridicule.
C'est
absolument ridicule.
Et pour ma part, je déteste l'eau en bouteille. Je trouve que ça goûte le plastique. Je n'aime même pas le goût. Mais pour dire quand même que c'est 700 millions de bouteilles similaires qui sont retrouvées dans nos sites d'enfouissement. Donc, ça va être une économie de milliers de dollars pour la métropole parce que l'entretien, ben, les sites d'enfouissement, je veux dire, ça apporte des coûts, ça. Et ce n'est pas une mesure qui s'applique du jour au lendemain. Par contre, on nous indique que le prochain contrat d'approvisionnement prendra en compte cette nouvelle mesure. Méthode qui s'intègre dans la lutte contre le plastique, lutte qui demeure le thème de la Journée internationale de l'environnement et de la Journée internationale des océans également, qui a été fêtée la semaine dernière.
Et actuellement au G7.
Quand je vous dis que ça devient un thème qui est sur toutes les bouches, c'est vrai. Et ça devient majeur et je suis contente de voir, en fait, qu'on fait notre part ici également. Et toujours dans la lutte contre le plastique, la plus large chaîne de cafés du Royaume-Uni débourse actuellement eux-mêmes pour recycler les contenants de leurs clients. C'est la chaîne britannique de café Costa Coffee, la deuxième plus grande chaîne de café au monde après Starbucks, qui se lance comme objectif de recycler pas moins d'un demi-milliard de contenants individuels non réutilisables par année d'ici 2020. Ils vont donc eux-mêmes payer la main-d'œuvre pour récupérer les contenants ainsi que le transport vers les usines à papier pour en assurer le recyclage parce que bien qu'il y ait trois usines à papier majeures disponibles, aucune compagnie n'avait encore pris l'initiative d'aller y porter leur contenant de papier. Donc, le papier finissait par être incinéré ou aller dans les sites d'enfouissement plutôt qu'être recyclé. Ils vont également payer 75 euros par tonne de papier recyclé aux compagnies de gestion de déchets, ce qui équivaut à 140% du montant qu'ils reçoivent habituellement ces compagnies-là pour le même travail. On veut vraiment s'assurer que ce sera fait pour que le profit soit suffisamment alléchant pour qu'on arrête de choisir les sites d'enfouissement aux dépens des usines de papier où devrait aller naturellement le papier. Je trouve que c'est génial. Quand c'est rendu que des compagnies prennent leur profit et qui décident de l'investir au profit de la planète, c'est plutôt rare.
À condition qu'ils fassent sans augmenter le prix de vente.
Ah, ce n'était pas encore mentionné.
Méfie-toi.
Nous lirons dans les prochaines semaines ce qui en adviendra.
On lira surtout le résultat et le bilan financier. C'est là qu'on va le savoir. Parce qu'ils ne vont pas nous en parler.
ça méritait quand même d'être souligné. Belle initiative.
Bien sûr, bien sûr.
Effectivement. Thank you. pourquoi les avocats portent-ils une toge? Pourquoi est-elle noire? Hein? Depuis quand existent les avocats et les notaires? Qu'en est-il des juges et des jurys? C'est le genre de questions auxquelles nous pouvons avoir les réponses en consultant le magnifique livre de notre prochaine invitée qui s'est penché sur les mythes et les symboles du monde juridique, un livre qui mélange connaissance et créativité. Chaque mythe et symbole étant illustré par l'une de ses œuvres créatives et tout ça en redonnant à une cause dans laquelle elle croit. On reçoit Francesca Tropp aujourd'hui. Bienvenue, Madame Tropp.
Bonjour.
Et je tiens à m'excuser parce qu'en introduction, je vous ai appelée Madame Tropp. Ça s'écrit tel quel.
C'est comme ça que le nom s'écrit. Oui.
On va commencer par les fleurs. J'aime beaucoup votre façon de faire les dessins, et les couleurs, le choix des couleurs. C'est magnifique ce que vous faites.
Merci beaucoup. J'adore ça. Ça me touche énormément.
J'aime beaucoup ça. Le contenu, je n'ai pas eu le temps de le voir, mais les dessins, oui.
Une image vaut mille mots. Ouais, vous avez déjà fait le tour.
C'est formidable, c'est très, très beau.
Mais c'est intéressant, cette remarque, Robert, parce que ce que je lisais sur vous, c'est que l'utilisation des couleurs est l'une de vos forces, est un point de mire dans votre art.
Oui, à la base, je pourrais dire que je suis une coloriste. Ça se reflète moins dans ce livre parce que les couleurs sont plutôt
des taches noires,
grises.
Ça reste des taches noires.
Voilà, des taches noires, ça reste des taches noires. Et le monde de la justice, c'est pas un monde rose bonbon. Alors, il fallait quand même que je prenne des couleurs qui reflètent, qui trahissent l'ambiance du monde de la justice, qui est un monde assez angoissant, surtout pour les personnes qui ne sont pas des juristes et qui s'aventurent dans cet univers comme clients. Les premières fois qu'on va au palais de justice, et en fait, on s'y habitue pas vraiment. Moi-même, quand j'y retourne, ça prend la gorge, hein? C'est angoissant.
Mais vous avez nommé que vous y retourniez parce qu'au départ, on peut se questionner comment une artiste choisit de visiter c'est comme un domaine gardé, ça, qu'on connaît peu. Mais vous êtes une ex-avocate.
Oui, j'ai...
Pendant 15 ans.
J'ai fait mes études de droit à l'Université de Montréal. Mm-hmm. Et puis, j'ai passé les examens du barreau, j'ai fait mon stage et j'ai travaillé comme avocate dans différents domaines pendant 15 ans. Et tout le long, moi, je me suis toujours vue non comme une avocate qui peint, mais comme une peintre qui pratique le droit. Et c'est pour cette raison que je m'étais promis, quand je serai grande, je serai peintre. Et en approchant de la quarantaine, je me suis dit, ben voilà, je suis grande, je vais faire ce qui m'habite. Et je me suis consacrée à la peinture pour essayer de mieux découvrir quelle était ma voie en tant qu'artiste. J'ai toujours peint depuis que je suis petite.
Très jeune.
Et même à l'université, j'illustrais le journal étudiant. J'ai toujours été la personne qui peint dans mon entourage. Mais quand j'ai décidé de me consacrer à la peinture, j'ai d'abord commencé par explorer toutes sortes de thèmes comme la nature, les couleurs. Et puis, au cours des dernières années, je me suis concentrée sur le domaine du sport. Étrangement, mon fils joue au hockey.
J'ai vu une exposition du hockey, effectivement.
Voilà.
Oui,
donc,
oui.
Étant là-bas, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose de très beau là-dedans, mm-hmm. dans le mouvement des joueurs, le soccer, le tennis, les couleurs. Comment on traduit dans un langage visuel le mouvement, la compétition, la confrontation? Et puis, je me suis dit, tiens, ce qui m'intéresse, c'est les rapports, les relations entre les personnages de la toile. Et là, j'ai des amis qui ont récemment été nommés juges et j'ai assisté à leur cérémonie de nomination au Palais de justice. Et en retournant là-bas, ça m'a frappée. Je me suis dit, mais c'est comme mes sportifs. Voilà des personnes qui, une fois qu'ils revêtent l'uniforme, deviennent quelqu'un d'autre. Ils ne sont plus eux-mêmes. Ils agissent en tant qu'agents. Ils deviennent un personnage. Ils deviennent le personnage du juge, le personnage de l'avocat, comme les joueurs de hockey deviennent le joueur de hockey ou le...
Et c'est nécessaire qu'ils deviennent des personnages, parce qu'on ne peut pas être une personne, parce qu'on aurait un parti pris, on aurait décidément des émotions et tout. Et un juriste ne passe que par les lois et non pas par sa personnalité.
Exactement. Et c'est l'uniforme qui définit, aux yeux du monde, cette coupure entre l'individu et le professionnel. Alors, je me suis donné comme défi de mettre des toges à mes joueurs de hockey... Et pour réaliser qu'en fait, ils ne bougent pas beaucoup, les avocats. Donc, on ne peut pas traduire la confrontation de la même façon visuellement. Je devais recourir à d'autres artifices. Et je me demandais, mais ces personnages, en fait, c'est des rectangles noirs, verticaux, avec le petit rabat blanc. Comment je peux les représenter pour qu'on sente l'atmosphère, le malaise, le secret, la tension? Et voilà, en explorant le thème, j'en suis venue à présenter des environnements un peu religieux, un peu mystiques. Et en cherchant des images de ces milieux-là, j'ai réalisé qu'en Europe, surtout les palais de justice ont vraiment l'air de palais. Il y a quelque chose, ou même de cathédrale. Mm-hmm. Et en me mettant à fouiller l'histoire, j'ai réalisé que les avocats, à la base, les premiers avocats, du moins en France, étaient des prêtres, parce que c'était les seules personnes qui savaient lire. Et ils
comme
étaient...
les enseignants, d'ailleurs, aussi. Il y avait toutes sortes de rôles.
Oui, exactement. Les prêtres avaient des rôles multiples. Et ils savaient lire. Et ils étaient familiers avec le droit canonique, qui était une des sources de droit importantes, une source de droit très structurée en Europe. C'était la seule, parce qu'à l'époque... il n'y avait pas de pays, il y avait des comtés, des états, des duchés.
La toge viendrait de la soutane.
Exactement, mm-hmm. exactement. Si bien qu'en France, pendant très longtemps, la toge comptait 33 boutons, qui est l'âge du Christ à sa mort.
Oh, wow! Et le nombre de vertèbres qu'on a aussi dans le dos. Hein,
pour plusieurs d'entre nous, oui.
moi, il m'en manque une coupe, mais c'est pas grave.
Chanceux. Oui. Alors, le rôle de l'accompagnateur... Et là, ça m'a frappée dans mes peintures. Je représentais mes avocats comme des prêtres et je me suis dit, mais ils ont un rôle quelque part qui se rapproche beaucoup les deux. Le prêtre et l'avocat, c'est un intermédiaire entre un ordre supérieur qui est incompréhensible pour la plupart des gens et l'individu qui vient se confier sous le secret de la confession ou du secret juridique, qui vient se confier pour demander à ce spécialiste de lui expliquer ce qui se passe, ce que contient le livre écrit en latin, qui est incompréhensible. Mm-hmm. Et donc, ce parallèle, c'est ce que j'ai voulu traduire dans mes peintures, pas pour me moquer du rôle du juriste, au contraire, pour le valoriser, pour lui redonner ses lettres de noblesse.
Le démystifier.
Le démystifier par le mythe, en expliquant le mythe.
C'est possible d'envisager que ce soit distribué gratuitement dans les prisons.
Ça me ferait bien plaisir.
Parce qu'ils ont une vision des avocats assez particulière parfois.
Oui, plus diabolique.
Mais me questionnais également justement où était venue cette idée de peindre le monde juridique. Et je me suis dit, est-ce que vous avez eu un moment de nostalgie? Mais une autre question m'est venue également, c'est de savoir comment on met dans une œuvre, un livre, tout l'aspect pragmatique des connaissances historiques de votre travail et tout l'aspect inspiration, créativité que la peinture nécessite. On dirait que c'est pas comme la même... C'est comme cerveau droit, cerveau gauche, là, tu sais.
Oui, ben je suis prise avec les deux.
C'est un gros problème.
Étant dans l'âme une artiste, mm-hmm. mais qui a été... qui a suivi un parcours scolaire très rigide, j'ai développé les deux compétences et j'ai voulu les réconcilier dans le livre... Je me suis fait plaisir en lisant des centaines et des centaines de pages. Le livre a une soixantaine de notes de bas de page. C'est très fouillé. La recherche est sérieuse et il n'y a que de l'information que j'ai vérifiée dans plusieurs sources différentes.
Vous parlez du Moyen-Âge, vous parlez...
Oui, et j'ai vraiment... on trouve de tout sur Internet, mais il y a beaucoup de fausseté et j'ai été vérifiée. Mmh. Je voulais que ça soit vraiment exact et rigoureux. Mais j'ai fait ce qu'on appelle un exercice de langage clair.
Vulgarisé.
Oui, vulgarisé et simplifié. Mm-hmm. Et d'ailleurs, il y a 10 % des revenus tirés de la vente du livre qui sont remis à un organisme à but non lucratif qui s'appelle Éducalois, qui se spécialise dans le langage clair. Et donc, le livre, tout naturellement, j'ai voulu l'associer à ce projet parce que, d'une certaine façon, on fonctionne de la même façon. On cherche à simplifier un paquet d'informations complexes pour le rendre lisible et facilement accessible. J'essaie de prendre l'encyclopédie universaliste et de faire ça en Twitter, avec des images. Mm-hmm, et voilà, ça a donné un livre de table.
Mais il m'a été donné de voir à quel point les gens qui faisaient appel à l'aide juridique, par exemple, étaient mm-hmm. souvent perdus avec des préjugés, des craintes vis-à-vis de ce métier-là.
Une incompréhension, une confusion.
C'est important de leur dire d'où ça vient, pourquoi et à quoi ça sert.
Et de rappeler qu'à la base, c'est un rôle de bienveillance, le rôle de l'avocat. Les prêtres vraiment ont un rôle de bienveillance, mais les premiers avocats en France, en Angleterre, c'est la même chose. Les lois, dès le début, précisaient que les avocats n'avaient pas le droit de demander paiement lorsque les clients n'en avaient pas les moyens.
Wow.
Ils avaient une vraie mission sociale d'aide.
Vous devez me renseigner. Quelle est cette pièce de vêtement? J'ai pas le bon mot.
Le rabat.
Il y a le rabat, mais l'espèce de bandoulière qui avec un repli vers l'arrière parfois.
Les pitoches.
Bon, ça vient du fait qu'ils ne pouvaient pas toucher à l'argent et qu'il y avait une poche derrière, non?
Ça, c'est une fausse rumeur.
C'est une fausse rumeur. Ah, mais je suis content de l'entendre. Ah bon?
Mais c'est simplement une évolution du vêtement. Pendant longtemps, les toges comportaient un capuchon.
Je suis pas surpris que c'est pas vrai que les avocats n'ont pas le droit de toucher à l'argent. Je suis pas très surpris de ça.
Il faut bien vivre.
Je veux simplement rappeler à tout le monde qu'on peut se rendre sur votre site internet, le www.francescatrop.com, pour aller voir tous vos œuvres.
C'est également magnifique, c'est très beau.
Effectivement, et on peut faire des commandes également en vous écrivant directement au francesca@trop.com.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Madame Trop. Vraiment.
Merci.
Merci infiniment.
Au revoir.
Bonne journée. Parce qu'à chaque semaine, chaque journée est une terre d'accueil pour célébration, pour une célébration quelconque. Voici les Journées mondiales et internationales de la semaine du 12 au 18 juin, en commençant par le 12 juin, aujourd'hui, qui est la Journée internationale de la NASH. N-A-S-H.
Ah, c'était une auto, ça. J'en ai... C'est vrai?
Non, ce n'est pas... C'est vrai?
NASH Rambler, oui.
Hey, mais moi...
C'est vieux, là.
Ah non, moi, je mélange une Porsche puis une Géo métro, là. C'est vrai, je suis
pourri. Alors, c'est quelle NASH s'agit? Hein?
C'est quoi la NASH? Ouais. C'est la stéatohépatite non alcoolique, une maladie dégénérative du foie qui affecte des millions de personnes à travers le monde. Comme le dit le nom, cette maladie-là n'est pas une résultante d'une consommation d'alcool abusive qu'on associe souvent aux troubles du foie. Malgré qu'elle reste une conséquence directe de notre mode de vie. Il s'agit plutôt d'un trouble métabolique dû à une alimentation mal équilibrée, trop riche en sucre et en graisse, combinée avec un manque d'exercice. C'est une maladie qui est silencieuse. Les personnes en étant atteintes n'ayant aucun symptôme avant le stade avancé où des complications importantes, voire mortelles, deviennent une réalité. La particularité de cette affectation du foie est que les risques d'événements cardiovasculaires se voit multiplier. Donc, ce n'est pas simplement les risques localisés au foie. C'est les risques cardiovasculaires qui sont la cause de mortalité première aux suites de la NASH. Le 12 juin 2018, c'est la première journée internationale de la NASH. Et comme 12% de la population en sera atteinte à un moment ou à un autre de leur vie, je ne sais pas si tu comprends l'ampleur de cette statistique, et que les statistiques avancent qu'en 2020, la NASH sera la première cause de greffe du foie. Il devient absolument impératif d'établir cette journée afin d'informer et de sensibiliser le grand public à ce problème de santé qui mérite d'être connu et traité. 12 juin, Journée mondiale contre le travail infantile, également soutenue par l'Organisation internationale du travail, qui établissent les conventions pour éliminer les pires forme de travail des enfants pour obtenir l'abolition complète du travail infantile. Cette journée, la Journée mondiale contre le travail des enfants et la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail font campagne commune, soit Génération Sécurité Santé, pour accélérer l'action pour entreprendre l'objectif numéro 8 des objectifs du développement durable, soit de promouvoir la sécurité sur les lieux du travail et assurer la protection de tous les travailleurs d'ici 2030. ainsi que de mettre fin au travail des enfants d'ici 2025. Dans l'idée, oui, de combiner la mission des Jeux, des deux journées mondiales, on met la priorité cette année sur les conditions dangereuses de travail dans lesquelles les jeunes de moins de 18 ans peuvent être mis à travers le monde. C'est la cible prioritaire. 13 juin, Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Soutenue par les Nations unies et soulignée pour la première fois en 2015, la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme vise à sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les albinos dans leur vie quotidienne et de lutter contre le rejet qu'ils peuvent parfois subir dans certaines sociétés. En effet, la discrimination et l'intimidation est une réalité pour les gens atteints d'albinisme, allant des insultes en Amérique du Nord au rejet et l'abandon de la part des familles dans les pays d'Asie, plus particulièrement en Chine. Et c'est sans parler des individus en Afrique qui naissent avec cette affectation des pigments de la peau qui nécessairement apporte une différence complètement, absolument notable dans leur communauté, on se comprend. La violence et la discrimination est d'ailleurs proportionnellement reliée à la différence perçue avec le reste du peuple. Selon l'OMS, l'albinisme touche entre un cas sur 5 000 et un cas sur 15 000 de l'Afrique subsaharienne. Oui, la journée veut également être une plateforme de levée de fonds en faveur de la recherche pour mieux comprendre le phénomène de l'albinisme, considérant les conséquences et les fragilités sur le plan de la santé de cette affectation de la mélatonine. Parce qu'il y a plusieurs difficultés qui en résultent, et c'est pas quelque chose qu'on connaît beaucoup, dont la photophobie, entre autres, qui est des difficultés sur le plan de la vision, de la photo. C'est pas simple, là, c'est pas juste « je suis différent ».
Est-ce que tu connais un grand politicien québécois qui était albinos?
Mais dis, attends.
Pierre Bourgault.
C'est vrai?
Absolument.
Ben vois-tu. Il pourra festoyer sa différence. Sa différence, sa belle
festoiera
différence.
Pas beaucoup de ce temps-là. Il est mort depuis quelques années.
Ouais. C'est ça. 14 juin, je veux souligner la Journée mondiale des donneurs de sang, qui vise bien sûr à sensibiliser la population à travers le monde à l'importance du don de sang. C'est 8 personnes sur 10 mondialement qui n'ont pas accès à la sécurité transfusionnelle, donc qui se voit dans l'incertitude d'avoir une transfusion sanguine si le besoin se présente. L'Organisation mondiale de la santé chapeaute cette journée mondiale et en profite pendant ces 24 heures de célébration pour remercier les personnes volontaires, bénévoles, du geste salvateur qu'ils font en donnant de leur sang, ainsi que de sensibiliser l'opinion à la nécessité de donner du sang régulièrement pour assurer la qualité, la sécurité et la disponibilité du sang et des produits sanguins. Parce qu'il faut le noter, c'est la régularité du don de sang qui est la clé ici. Il faut que les gens, du moins c'est ce qu'on promeut cette fois-là, en cette journée, de dire « c'est pas tout de donner du sang une fois par 10 ans » ou de dire « ah, moi j'ai donné du sang une fois » et d'avoir la conscience tranquille, c'est vraiment l'aspect régulier du don de sang qui assure l'accessibilité aux soins de transfusion sanguine. C'est quand même la vie. Le sang, c'est la vie. C'est non négligeable.
À moins d'être témoin de Jéhovah.
C'est une autre question. maudit bonheur. Ouais. C'est quand même une belle... un beau paradoxe dans une expression, quand même. Hein?
Je pense qu'au Québec, quand on dit que c'est un maudit bon gars, c'est très positif.
Il y a une intensité.
Et ça peut être négatif aussi.
Oui.
Mais comme le bonheur, ça nous préoccupe beaucoup, qu'on le cherche, qu'on le trouve, qu'on ne le trouve pas, qu'on le perd.
Des fois, il nous passe entre les mains, puis c'est là qu'il vient un petit maudit.
Puis des fois, c'est un maudit beau bonheur. Ça
mais là, tu nous l'offres à main ouverte, ici. Là,
bon, je vous l'offre, mais je continue à vous donner des outils qui sont dans mon coffre d'outils pour se bricoler.
Dans ton cabanon.
pour se donner un bonheur. Première, deux questions à se poser. Okay?
Comme, faut que tu prennes un papier et un crayon.
Non, je pense que tu vas le savoir assez bien, merci. Je pense que tu es très préoccupé toi-même dans ton comportement par ce genre de choses.
Ben, allez-y.
Se poser la question, est-ce que j'ai été important ou en tout cas utile pour quelqu'un aujourd'hui? Ça, c'est facile de se poser la question. La difficulté, c'est la réponse. Tu te poses la question, tu disais, non, attends un peu, là, il faut que j'en trouve au moins un, si possible deux, là, j'ai droit à un bonus, là. C'est pas si facile que ça. Parce qu'on dit, ouais, j'ai été utile pour cette personne-là. Es-tu sûr? Tu penses?
Parce que parfois, on offre notre aide très égoïstement, dans le sens où notre aide, on le fait pour nous bien plus que pour la personne qui n'a absolument pas besoin.
Et on n'est pas certain que le geste se rend jusqu'à l'autre personne, qu'il est perçu, reçu de l'autre côté. On aimait beaucoup, mais la réception, c'est important.
Et des fois, trop vouloir et vouloir plus que la personne, c'est délétère.
Et parfois, c'est intéressant de vérifier auprès du destinataire de l'aide si l'aide s'est rendue, si elle a été si ça a servi.
Mm-hmm.
Je suggère ça, peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps de faire ça, parce que si au bout de l'année, on n'a pas le sentiment d'avoir été utile à quelqu'un, si possible à quelqu'un au pluriel, ça, c'est pas la même notion qu'on a d'être bien dans sa peau. Mais au même titre, et dans la même dynamique, si on veut.
Parce qu'être utile, c'est faire la différence, on se comprend.
En tout cas, une petite différence.
Ben, hein? Il n'y a pas de petite différence.
Oh oui, il y en a des petites, puis il y en a des très, 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 très grandes, à mon avis. L'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que si quelqu'un m'a été utile aujourd'hui, ça serait, ou hier, ou la semaine dernière, ça serait peut-être le fun de lui dire qu'il nous a été utile. Et en faisant ça, vous allez voir que ça déclenche un paquet d'autres réactions qui sont très utiles à bien mettre les morceaux du puzzle au bon endroit.
Donc, on parle ici qu'une des clés du bonheur serait la gratitude nommée?
C'est une des clés.
Mais ce que tu viens de nommer, c'est ça.
Ça va, c'est le pendant de la générosité.
C'est d'être dans la reconnaissance
on est
et de la
d'une
nommer.
Part, d'une part généreux et d'autre part... Gratitude de quand on en reçoit aussi. C'est juste de le dire, de l'exprimer à qui de droit. Quand ça se fait dans le rapport humain, dans la communication, c'est beaucoup mieux. C'est comme du vin, si c'est pas dans une bonne barrique, qui est moins bon au bout de 3 ans.
Tu sais. Mm-hmm.
La barrique, c'est la communication.
Mm. Parce que ressentir cette reconnaissance, c'est une chose, mais de pouvoir la partager, de pouvoir la nommer avec humilité, sans orgueil, c'est pas tout le temps, c'est pas facile pour tout le monde.
Oui, c'est pas facile pour personne.
Ben, ça se pratique.
Ça se pratique.
Ça se pratique.
Bonne chance.
Oh, merci. Robert.
Oui.
Tout d'abord, on a discuté un petit peu tout à l'heure des difficultés du contexte du Nicaragua dans lequel tu t'es retrouvé dans les trois dernières semaines. Par contre, une chose peut être positive quand même, c'est d'avoir terminé ta biographie. Comment s'est passé le processus d'inspiration?
Ben, l'inspiration...
Es-tu satisfait?
Ben, tu sais, quand tu construis un livre, tu creuses des fondations, tu montes la charpente, tu fais bon, tout ça. Ben, ce que j'ai fait là-bas, j'étais terminé, j'ai tiré les joints.
Ouais, c'est ça!
J'ai été tiré les joints pour remettre ce que j'ai fait à mon retour.
Cadres, ouais.
Non, pas encore. Non? Ça c'est la fabrication du livre qui va arriver avec ça. Okay. Mais pour ce qui, ça me permettait, au retour, de soumettre mon manuscrit à mon éditeur, que j'ai vu il y a quelques heures à peine, et qui est, ma foi, fort enchanté du résultat. Ça fait bien plaisir. Alors, c'est ça. C'est parti.
Génial. Et est-ce que tu as eu le temps, à ton retour, de regarder les belles choses qui se passent à travers le monde ou aussi au Québec qui t'ont fait sourire?
Oui, ça va me changer de ce que j'ai vu au Nicaragua, malheureusement pour eux.
Ben, en espérant que cette révolution mène à quelque chose d'extrêmement bien.
Oui, mais il ne faudra pas rêver en couleur. Ah, on part de loin, là.
Ça, c'est pas ma job.
Non, pas, oui.
Ouais, moi,
c'est leur job parce qu'ils ne peuvent pas rêver en couleur. Hein, pas les moyens.
Ouais.
Changeons de sujet tout de suite.
Tout à fait.
Il y a une nouvelle qui me réjouit beaucoup et ça s'est passé en Irlande avec le référendum qui ont enfin accepté et l'avortement, la fin de l'avortement, la fin des règlements contre l'avortement et contre la prohibition. Ça, de la prohibition, ils s'en foutaient depuis longtemps. Parce que ça prend un coup solide de ce côté-là. Mais jusqu'en 2013, l'avortement était passible de prison à vie. Je ne dis pas qu'il l'appliquait nécessairement, mais ça causait
des énormes...
Pas dans la jurisprudence, dans la loi.
Ben oui, mais la jurisprudence, ça veut dire qu'il y avait des antécédents et qu'il pouvait s'appuyer pour pouvoir la remettre actuellement. C'était dans les annales des possibilités de sentence.
C'est la loi qui disait que c'était ça. C'est ça. Alors,
En tant que femme, je suis très heureuse.
Ben oui, mais en tant qu'homme aussi. C'est une question universelle, cette affaire-là, le libre usage de son propre corps, et que nous, les femmes, ne sont pas des outils économiques pour l'État ou pour les maris. C'est extrêmement important, et c'était pas si... J'en revenais pas, je ne savais pas que jusqu'en 2013, c'était interdit à ce point. Et il y a plusieurs autres endroits dans le monde où c'est encore interdit, malheureusement. On va les laisser se réveiller, là. Mais bravo pour l'Irlande et pour ce référendum. Une autre bonne nouvelle arrive de la Californie. Californie qui vient contre l'avis de Washington, parce que l'État américain, le pays au complet, est contre, vient d'annoncer la mise en force du règlement de la construction au niveau des panneaux solaires. Toute nouvelle construction doit comprendre un pourcentage important de sources électriques par panneau solaire sur la maison. On ne l'a pas vu beaucoup, cette nouvelle-là.
Recommence ta phrase.
Tu construis une nouvelle maison actuellement en Californie, tu dois avoir un pourcentage de ta source électrique qui vienne de panneaux solaires que tu vas installer sur ta maison. Ce que ça veut dire, regarde les chiffres, OK? Pour faire ça, ta maison va te coûter, une hypothèque si tu veux, là, 40 % de plus par mois que ça va te coûter. C'est quand même important,
c'est
le 40 %.
C'est beaucoup.
Mais écoute la fin du même paragraphe. Tu vas pouvoir sauver 80 $ par mois d'énergie. Donc, tu fais 40 $ de bénéfice. Et ce n'est pas une option, c'est depuis un mois une loi de construction en Californie.
Oui.
Il y a eu un grand débat pour savoir si on allait faire ça sur les maisons déjà existantes. Ça, c'est pas réglé. Mais toute nouvelle construction doit absolument offrir ces possibilités-là. Formidable.
Je suis heureuse parce que ça veut dire qu'à quelque part, on commence à réglementer des... on est rendu à obliger les gens ou peu importe qui est impliqué dans l'histoire à faire des gestes.
Parce qu'on est passé au niveau de l'environnement.
On n'a plus le choix, là.
Des croyances aux connaissances.
Au concret. Puis
aux connaissances.
À l'application.
Et ça, quand on passe dans l'humanité des croyances aux connaissances...
Les choses bougent.
Oui, c'est comme quand on laisse la religion de côté puis qu'on l'enterre, c'est à peu près de la même façon.
Tout à fait.
On passe des croyances aux connaissances.
Non, tout à fait, tout à fait. je te parle, je ne sais pas si c'est nécessairement une bonne nouvelle. Pour moi, c'est plutôt une nouvelle différente. Moi, j'appelle ça les nouvelles différentes. Et j'ai bien hâte de voir ta réaction sur cette nouvelle. Sache que il y aurait des hôtels dans l'espace d'ici 2022.
22?
Oui.
C'est un peu court. Là.
2022. On avait déjà parlé de Mars et tu avais nommé l'idée qu'il allait bientôt avoir des restaurants qui allaient souffrir pour les ouvriers. Et mais là, le premier hôtel de luxe dans l'espace a déjà commencé à prendre des réservations. C'est pas des blagues.
Ah, les réservations, j'ai pas de problème avec ça.
C'est la compagnie Orion Span, basée à Houston, au Texas.
Ah oui, ils font beaucoup de bruit de ce temps-là.
Qui veut mettre la station Aurora, une station compacte environ de 35 pieds par 14 pieds, à la disponibilité du grand public pour une expérience incomparable. On vise la fin de 2021 pour finaliser le projet afin d'accueillir les clients dès l'année suivante. La station qui flotte à plus de 230 km. Au-dessus de la Terre, est assez grande pour accueillir deux membres de l'équipage et quatre visiteurs. Et j'ai pas le choix de souligner le visage de Jean-Sébastien.
As-tu vérifié s'il y avait une rampe pour handicapés là-dessus?
Mais pas besoin de rampe, t'es zéro gravité là-dedans.
Ouais, c'est vrai, t'as raison.
C'est zéro gravité. Écoute, mais c'est vrai, accessible, pas pour tous. En fait, un séjour sur la station Aurora sera au coût de... As-tu une estimation?
2,95 $ à peu près.
C'est pas des Big Mac qu'on va ici, là. Alors, 792 000 $ par nuit. Et c'est un dépôt de 80 000 $ pour la réservation actuelle qui est possible dès maintenant. C'est quand même un dépôt qui est remboursable au total. Au complet.
Cher monsieur La Liberté a payé 8 millions pour monter avec les Russes.
Ben, c'est la possibilité d'expérimenter le zéro gravité et de voir 384 levées et couchers de soleil en 12 jours, vu la grande vitesse
en
à laquelle...
En absence de gravité.
En l'absence de gravité.
Sexuellement, ça m'intéresse.
À laquelle le Nicaragua ne l'a pas changé. À laquelle la station... Bon, ben c'est sûr que, à très grande vitesse à laquelle la station orbite, oui, autour de la Terre, c'est un voyage d'un montant de total de 9,5 millions par visiteur, considérant les 12 jours. C'est particulier. J'ai lu ça, mais j'ai dit, mais mon Dieu, je n'étais point au courant.
Ça, c'est le petit déjeuner compris, là.
Ah, ça doit être des déjeuners, comment t'appelles ça, là, des déjeuners continental. Merci, j'avais méditerranéen dans la tête, c'est pas ça pour toi.
Continental.
Des déjeuners continental.
Des œufs miroirs en l'absence de gravité, ça doit être absolument délicieux.
Bon, des petites chocolatines dans l'espace. Ça va être bien bon. Mais c'est quand même surprenant. C'est quand même incroyable.
Bon, je serais surpris quand ça sera là.
Ah, mais toi, t'es toujours attendu. Toi, t'es un Thomas. Hein? Il faut que tu le vois pour le croire.
Les doigts dedans ou rien.
Oui, c'est ça. Je vous parle rapidement également des scientifiques qui s'apprêtent à aller explorer un monde caché depuis 120 000 ans. Sous la glace en Antarctique. Cet écosystème sous-marin assez mystérieux, c'est le cas de le dire, attire l'attention des explorateurs actuellement. Pourquoi maintenant? C'est un glacier quatre fois gros comme la ville de Manhattan qui s'est brisé en juillet 2017 dont la gigantesque faille donne l'accès à l'exploration et les scientifiques ont donc une opportunité unique d'aller étudier la vie marine en réponse au changement climatique. Ça va leur permettre d'aller voir également l'écosystème et d'aller voir son évolution en fonction des changements climatiques. Et c'est quand même un monde marin qui fait 5818 km², juste pour vous dire, là, c'est 600 km de plus que la distance entre le Québec et la France. Donc, bien hâte de voir ce qu'ils vont découvrir là-bas. C'est déjà presque tout pour cette semaine. Merci Catherine Bourderon à la recherche, Jean-Sébastien La Liberté, merci à toi et à Francesca Tropp.
À la semaine prochaine.
Oh, assurément.